L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la semaine dernière les coulisses des mastodontes du numérique, nous retournons aujourd'hui à la Terre, et si j'ose dire, à la Terre nourricière. Qualifié de divin par certains, il peut mener jusqu'à l'enivrement s'il n'est pas consommé avec modération, mais aussi être le compagnon des meilleurs moments. Si les mots sont abondants pour le décrire, il n'en reste pas moins mystérieux. Dans un verre, il est une énigme que les amateurs cherchent à mettre à jour. Vous l'aurez sans doute deviné, notre invité du jour sera le vin. Nouvelle géographie des vignobles, évolution du goût des consommateurs et développement du vin bio, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Les grandes zones de production viticole sont bien connues du grand public. Si l'on prend le territoire français, la variété de terroirs et de climats donne quantité de vins aux profils bien différents. Des coteaux alsaciens au domaine de Bordeaux, en passant par les Côtes de Nuit ou le Mâconnais, des vins de patrimoniaux en Corse au Pachrinck du Vic-Bilh. Rouge léger, rouge tannique, blanc sec, moelleux ou liquoreux, crémant ou champagne, toutes les nuances sont représentées, de quoi ravir les palais du plus grand nombre. En 2017, le premier producteur mondial de vin était l'Italie, devant l'Espagne et la France. Voici quelques chiffres clés concernant la production viticole européenne. 3,2 millions d'hectares de vignes au sein de l'Union européenne, soit 43% du vignoble mondial en surface. En 2017, l'Europe est le premier exportateur de vin en valeur, et les Européens représentent 63% de la consommation mondiale. Quant aux États-Unis, ils représentent le premier marché d'exportation des vins européens en volume et en valeur. Alors, si l'on fait un tour des vignobles européens, le vignoble italien est un vignoble qui a réalisé une montée en gamme depuis les années 80. Les vignobles en coteaux bénéficient de l'influence du bord de mer et de la montagne. Au nord, les vignes poussent sur un sol calcaire et sur un sol volcanique au sud. D'ailleurs, du vin est cultivé sur les pentes du Vésuve, le célèbre Lacrima Christi. Le vignoble espagnol, quant à lui, est un vignoble qui produit des vins de tous les styles, du plus simple au plus charpenté. Et parmi les vins les plus célèbres, on peut citer les vins de Rioja, des vins rouges, soyeux et fruités. Quittons l'Europe pour prendre la direction des vignobles dits du Nouveau Monde. Et nous commençons par les États-Unis, où les vins sont plus ronds et plus fruités. Ce sont des vins plus faciles à boire. Des vins parfois qualifiés de séducteurs qui manquent de personnalité. Les vins californiens, stars du vignoble américain, qui n'ont pas leur étoile sur Hollywood, affichent des prix proches de ceux des grands vins bordelais. Deux zones sont particulièrement connues pour leur production viticole, la Napa Valley et la Sonoma Valley. En Argentine, l'altitude et le fort ensoleillement sont particulièrement propices à la culture de la vigne. La principale région productrice est celle de Mendoza, dans le centre-ouest du pays. L'Afrique du Sud maintenant. L'Afrique du Sud est un pays qui cultive le vin de longue date, puisque le vin liquoreux Klein Constantia était le vin préféré de Napoléon. Le vin est cultivé dans la partie sud-sud-ouest du pays, notamment dans la région de Stellenbosch, et les régions situées à proximité du Cap bénéficient de la fraîcheur maritime. En Australie, la vigne est implantée dès la fin du XVIIIe siècle. Le milieu naturel est plutôt hostile en Australie pour la culture de la vigne, il n'y a donc pas de cépages autochtones. Ce sont des cépages internationaux qui sont cultivés. La Nouvelle-Zélande, outre le rugby, est réputée pour ses vins blancs, et plus particulièrement ses sauvignons. D'autres régions dans le monde sont productrices de vins, mais sont moins connues. Le Proche-Orient, avec les vins du Liban, le Caucase, avec l'Arménie et la Géorgie, en sachant que l'Arménie est l'un des berceaux de la civilisation du vin. La Chine connaît une augmentation exponentielle de la production et de la consommation. 80% du vin bu par les Chinois serait produit dans le pays. D'ailleurs, de grands groupes français investissent actuellement dans le vignoble chinois, LVMH, Pernod Ricard ou encore le domaine Lafite Rothschild. En Angleterre, oui, vous avez bien entendu, les Anglais produisent du vin, plus particulièrement du vin blanc pétillant dans le sud du pays. Si le vin est avant tout une question de palais, il est aujourd'hui aussi un produit marketing. Les consommateurs sont sensibles au contenu d'une bouteille, mais aussi à son enveloppe extérieure. De nombreux producteurs travaillent à la réalisation d'étiquettes plus colorées, sur lesquelles peuvent se trouver des dessins humoristiques. Aujourd'hui, les agences de communication spécialisées dans les vins spiritueux ne cessent de pulluler. Elles aident les producteurs à définir leur positionnement commercial, et au lieu de se focaliser sur le jargon technique, elles les invitent à bâtir une histoire autour de leur vin, ce que l'on appelle en mauvais français le storytelling, en expliquant comment les producteurs en sont venus à se lancer dans le monde du vin ou à utiliser une anecdote sur le lieu où se trouve le vignoble. À cet effet, on peut noter une différence d'approche entre les pays producteurs dits historiques, pays européens, et les pays du Nouveau Monde qui ont eu recours aux techniques marketing beaucoup plus tôt. Les viticulteurs sont aussi obligés d'être présents en ligne et sur les réseaux sociaux. Le vin se veut être de plus en plus une expérience, et les publications de photos ou de vidéos sont un moyen de la relayer. La viticulture, comme de nombreux secteurs d'activité, n'échappe pas aux questions environnementales. Et nous allons voir qu'émerge aujourd'hui une nouvelle donne pour le vin. La multiplication des événements climatiques extrêmes a des conséquences sur la culture du vin. L'augmentation des températures oblige les viticulteurs à avancer les dates des vendanges dans de nombreuses régions. En 2018, ils ont par exemple dû les avancer de 15 jours. Alors, la culture de la vigne ne disparaîtra pas, mais la véritable question qui finira par se poser est la suivante. Pourra-t-on continuer à produire les mêmes vins avec des cépages et des localisations similaires ? La hausse des températures entraîne une augmentation du taux de sucre, ce qui donne des vins au taux d'alcool plus élevé. À titre d'exemple, depuis le début des années 80, le vignoble languedocien a gagné près de 1 degré d'alcool tous les 10 ans, passant en moyenne de 13 degrés à 15 degrés. Concrètement, l'un des impacts les plus visibles du changement climatique sur la viticulture peut se lire sur une carte de géographie. On observe un glissement vers le nord des conditions favorables à la culture de la vigne. Chères auditrices, chers auditeurs, vous verrez que dans quelques années, voire dans quelques décennies, les Hauts-de-France deviendront une terre de vignobles. Je vous parlais un peu plus tôt de la région de Mendoza, en Argentine. Il faut savoir que là-bas, la viticulture est totalement dépendante de l'irrigation. D'ailleurs, les producteurs recherchent des terres en altitude dans le nord et en Patagonie. Une autre question environnementale qui concerne la viticulture, le bio et la lutte contre les pesticides. Il existe une multitude de méthodes et de chapelles pour parler d'une viticulture plus respectueuse de l'environnement. Vin bio, biodynamie et production raisonnée. Je ne rentrerai pas dans les détails et me cantonnerai au vin bio. La viticulture bio interdit l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Le viticulteur s'efforce ainsi au maximum de maintenir l'équilibre biologique de la nature. Les produits utilisés pour traiter la vigne sont donc d'origine naturelle. Insecticides végétaux, cuivre, soufre ou encore la célèbre bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, entre 8 et 12% des superficies viticoles mondiales seraient cultivées en bio et la production de vin bio représenterait entre 3 et 5% de la production mondiale. Les vignobles les plus prestigieux, Bordeaux, Champagne, tardent à amorcer leur conversion vers le bio. Le vignoble provençal est quant à lui converti à près de 25%. Outre les questions de prestige des domaines et des appellations, un des facteurs d'explication tient au fait qu'il est moins risqué de produire en bio sous des climats chauds et secs. Au début de l'année 2018, une étude scientifique a prouvé que l'utilisation des pesticides avait pour effet de modifier la palette aromatique des vins. Un véritable séisme dans le Landerneau viticole qui a eu le mérite de briser l'omerta au sujet du lien entre pesticides et viticulture. Un appel aussi à en revenir à un traitement plus respectueux de la vigne et de ceux qui la travaillent. J'espère que ce rapide tour du monde des vignes vous aura plu et donné envie de déboucher une bonne bouteille avec vos proches. En attendant de vous retrouver, je vous laisse méditer ces propos du célèbre sommelier français Philippe Forbrach. À l'heure où le terme de mondialisation peut paraître négatif, il faut pourtant souligner les bienfaits de cette ouverture au monde qu'a marqué la dernière décennie. Parce que l'accès à l'information s'est simplifié, parce que la qualité des produits s'est considérablement améliorée, les vins du monde entier sont mieux connus et plus accessibles. La porte s'ouvre alors vers de nouvelles émotions gustatives, et je suis persuadé que le rôle même d'un sommelier réside dans cette capacité à créer des rencontres entre les différentes cultures autour du plaisir de la table. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle escale.